Deux mois se passèrent ainsi. Cette vie domestique, jadis si monotone, s'était animée par l'immense intérêt du secret qui liait plus intimement ces trois femmes. Pour elles, sous les planchers grisâtres de cette salle, Charles vivait, allait, venait encore. Soir et matin, Eugénie ouvrait la toilette et contemplait le portrait de sa tante. Un dimanche matin, elle fut surprise par sa mère au moment où elle était occupée à chercher les traits de Charles dans ceux du portrait. Madame Grandet fut alors initiée au terrible secret de l'échange fait par le voyageur contre le trésor d'Eugénie. « Tu lui as tout donné ?» dit la mère épouvantée. « Mais que diras-tu à ton père au jour de l'an quand il voudra voir ton or ?» Les yeux d'Eugénie devinrent fixes. Et ces deux femmes demeurèrent dans un effroi mortel pendant la moitié de la matinée. Elles furent assez troublées pour manquer la grand-messe et n'allèrent qu'à la messe militaire. Dans 3 jours, l'année 1819 finissait. Dans 3 jours devait commencer une terrible action, une tragédie bourgeoise sans poison ni poignard ni sang répandu, mais relativement aux acteurs, plus cruel que tous les drames accomplis dans l'illustre famille des Atrides. « Qu'allons-nous devenir ? » dit Madame Grandet à sa fille en laissant son tricot sur ses genoux. La pauvre mère subissait de tels troubles depuis 2 mois que les manches de laine dont elle avait besoin pour son hiver n'étaient pas encore finies. Ce fait domestique, minime en apparence, eut de tristes résultats pour elle. Faute de manches, le froid la saisit d'une façon fâcheuse au milieu d'une sueur causée par une épouvantable colère de son mari. « Je pensais, ma pauvre enfant, que si tu m'avais confié ton secret, nous aurions eu le temps d'écrire à Paris à Monsieur des Grassins. Il aurait pu nous envoyer des pièces d'or semblables aux tiennes. Et quoique Grandet les connaisse bien, peut-être... Mais où donc aurions-nous pris tant d'argent ? J'aurais engagé mes propres. D'ailleurs, Monsieur des Grassins nous eut bien... « Il n'est plus temps, » répondit Eugénie d'une voix sourde et altérée en interrompant sa mère. « Demain matin, ne devons-nous pas aller lui souhaiter la bonne année dans sa chambre ?»« Mais, ma fille, pourquoi n'irais-je donc pas voir les Cruchot ?»« Non, non, ce serait me livrer à eux et nous mettre sous leur dépendance. D'ailleurs, j'ai pris parti. »« J'ai bien fait, je ne me repens de rien. Dieu me protégera. Que sa sainte volonté se fasse. » « Ah, si vous aviez lu sa lettre, vous n'auriez pensé qu'à lui, ma mère. » Le lendemain matin, 1er janvier 1820, la terreur flagrante à laquelle la mère et la fille étaient en proie leur suggéra la plus naturelle des excuses pour ne pas venir solennellement dans la chambre de Grandet. L'hiver de 1819 à 1820 fut un des plus rigoureux de l'époque. La neige encombrait les toits. Madame Grandet dit à son mari, dès qu'elle l'entendit se remuant dans sa chambre, « Grandet, fais donc allumer par Nanon un peu de feu chez moi. Le froid est si vif que je gèle sous ma couverture. Je suis arrivée à un âge où j'ai besoin de ménagement. D'ailleurs, » reprit-elle après une légère pause, « Eugénie viendra s'habiller là. Cette pauvre fille pourrait gagner une maladie à faire sa toilette chez elle par un temps pareil. » Puis nous irons te souhaiter le bon an près du feu, dans la salle. Ta 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 ta, quelle langue ! Comme tu commences l'année, Madame Grandet, tu n'as jamais tant parlé. Cependant, tu n'as pas mangé de pain trempé dans du vin, je pense. Il y eut un moment de silence. Eh bien, reprit le bonhomme, que sans doute la proposition de sa femme arrangeait, je vais faire ce que vous voulez, Madame Grandet. Tu es vraiment une bonne femme, et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur à l'échéance de ton âge. Quoique, en général, les la Bertelière soient faits de vieux ciment, hein, pas vrai ? Cria-t-il après une pause. Enfin, nous en avons hérité, je leur pardonne. Et il toussa. Vous êtes gai ce matin, monsieur, dit gravement la pauvre femme. Toujours gai, moi. Gai, 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 le tonnelier, raccommodez votre cuvier, ajouta-t-il en entrant chez sa femme tout habillé. Oui, nom d'un petit bonhomme, il fait solidement froid tout de même. Nous déjeunerons bien, ma femme. Desgrassins m'a envoyé un pâté de foie gras truffé. Je vais aller le chercher à la diligence. Il doit y avoir joint un double Napoléon pour Eugénie, vint lui dire le tonnelier à l'oreille. Je n'ai plus d'or, ma femme. J'avais bien encore quelques vieilles pièces, je puis te dire cela à toi. Mais il a fallu les lâcher pour les affaires. Et pour célébrer le premier jour de l'an, il l'embrassa sur le front. « Eugénie !» cria la bonne mère. « Je ne sais sur quel côté ton père a dormi, mais il est bon homme ce matin. Bah, nous nous en tirerons !»« Quoi qu'il a donc notre maître ?» dit Nanon en entrant chez sa maîtresse pour y allumer du feu. « D'abord, il m'a dit « Bonjour, bon an, grosse bête, va faire du feu chez ma femme, elle a froid. » Et j'étais sotte quand je l'ai vu me tendant la main pour me donner un écu de 6 francs qui n'est quasi point rogné du tout. Tenez, madame, regardez-le donc. Oh, le brave homme, c'est un digne homme tout de même. Il y en a qui, plus ils deviennent vieux, puis durcissent. Mais lui, il se fait doux comme votre cassis et il rabonnit. C'est un bain parfait, un bain bonhomme. Le secret de cette joie était dans une entière réussite de la spéculation de Grandet. Monsieur des Grassins, après avoir déduit les sommes que lui devait le tonnelier pour l'escompte des 150 000 francs d'effets hollandais et pour le surplus qu'il lui avait avancé afin de compléter l'argent nécessaire à l'achat des 100 000 livres de rente, lui envoyait, par la diligence, 30 000 francs en écus, restant sur le semestre de ses intérêts. Et lui avait annoncé la hausse des fonds publics. Ils étaient alors à 89. Les plus célèbres capitalistes en achetaient, fin janvier, à 92. Grandet gagnait, depuis 2 mois, 12% sur ses capitaux. Il avait apuré ses comptes et allait désormais toucher 50 000 francs tous les 6 mois, sans avoir à payer ni imposition, ni réparation. Il concevait enfin la rente. Placement pour lequel les gens de province manifestent une répugnance invincible. Et il se voyait, avant 5 ans, maître d'un capital de 6 millions, grossi sans beaucoup de soins, et qui, joint à la valeur territoriale de ses propriétés, composerait une fortune colossale. Les 6 francs donnés à Nanon étaient peut-être le solde d'un immense service que la servante avait à son insu rendu à son maître. Oh, où va donc le père Grandet qu'il court dès le matin comme au feu ? Se dirent les marchands occupés à ouvrir leurs boutiques. Puis, quand ils le virent revenant du quai suivi d'un facteur des messageries, transportant sur une brouette des sacs pleins, « L'eau va toujours à la rivière, le bonhomme allait à ses écus, » disait l'un. « Il lui en vient de Paris, de Froidfond, de Hollande, » disait un autre. « Il finira par acheter Saumur, » s'écriait un troisième. « Il se moque du froid, il est toujours à son affaire, » disait une femme à son mari. « Hé, monsieur Grandet, si ça vous gênait, » lui dit un marchand de drap, son plus proche voisin, « je vous en débarrasserai. »« Ouin, ce sont des sous, » répondit le vigneron. « D'argent, » dit le facteur à voix basse. « Si tu veux que je te soigne, mets une bride à ta margoulette, » dit le bonhomme au facteur en ouvrant sa porte. Ah, le vieux renard, je le croyais sourd, pensa le facteur. Il paraît que quand il fait froid, il entend. Voilà 20 sous pour tes étrennes et motus, détale, lui dit Grandet. Nanon te reportera ta brouette. Nanon, les linottes sont-elles à la messe ? Oui, monsieur. Allons, haut la patte, à l'ouvrage, cria-t-il en la chargeant de sacs. En un moment, les écus furent transportés dans sa chambre où il s'enferma. « Quand le déjeuner sera prêt, tu me cogneras au mur. Reporte la brouette aux messageries. » La famille ne déjeuna qu'à 10 heures. « Ici, ton père ne demandera pas à voir ton or, » dit Madame Grandet à sa fille en rentrant de la messe. « D'ailleurs, tu feras la frileuse, puis nous aurons le temps de remplir ton trésor pour le jour de ta naissance. » Grandet descendait l'escalier en pensant à métamorphoser promptement ses écus parisiens en bon or. Et à son admirable spéculation des rentes sur l'État. Il était décidé à placer ainsi ses revenus jusqu'à ce que la rente atteignît le taux de 100 francs. Méditation funeste à Eugénie. Aussitôt qu'il entra, les deux femmes lui souhaitèrent une bonne année, sa fille en lui sautant au cou et le câlinant, Madame Grandet gravement et avec dignité. « Ah ah, mon enfant !» dit-il en baisant sa fille sur les joues. « Je travaille pour toi, vois-tu. Je veux ton bonheur. Il faut de l'argent pour être heureux. Sans argent, bernique. Tiens, voilà un Napoléon tout neuf. Je l'ai fait venir de Paris, nom d'un petit bonhomme. Il n'y a pas un grain d'or ici. Il n'y a que toi qui as de l'or. Montre-moi ton or, fifille. » Bah, il fait trop froid. Déjeunons, lui répondit Eugénie. Eh bien, après, hein, ça nous aidera tous à digérer. Ce gros des Grassins, il nous a envoyé ça tout de même, reprit-il. Ainsi, mangez, mes enfants, ça ne nous coûte rien. Il va bien, des Grassins, je suis content de lui. Le Merluchon rend service à Charles, et gratis encore. Il arrange très bien les affaires de ce pauvre défunt Grandet. « Ouh » fit-il la bouche pleine après une pause. « Cela est bon. Mange-en donc, ma femme. Ça nourrit au moins pour 2 jours. »« Je n'ai pas faim. Je suis toute malingre, tu le sais bien. »« Ah, ouin. Tu peux te bourrer sans crainte de faire crever ton coffre. Tu es une labertelière, une femme solide. Tu es bien un petit brin jaunette, mais j'aime le jaune. » L'attente d'une mort ignominieuse et publique et moins horrible peut-être pour un condamné que ne l'était pour Madame Grandet et pour sa fille l'attente des événements qui devaient terminer ce déjeuner de famille. Plus gaiement parlait et mangeait le vieux vigneron, plus le cœur de ces deux femmes se serrait. La fille avait néanmoins un appui dans cette conjoncture. Elle puisait de la force en son amour. Pour lui, se disait-elle, je souffrirai 1000 morts. À cette pensée, elle jetait à sa mère des regards flamboyants de courage. Ôte tout cela, dit Grandet à Nanon, quand vers 11 heures le déjeuner fut achevé. Mais laisse-nous la table, nous serons plus à l'aise pour voir ton petit trésor, dit-il en regardant Eugénie. Petit, ma foi, non, tu possèdes valeur intrinsèque. 5 959 francs et 42 ce matin, cela fait 6 000 francs moins 1. Eh bien, je te donnerai, moi, ce franc pour compléter la somme. Parce que, vois-tu, fifille. Eh bien, pourquoi nous écoutes-tu? Montre-moi tes talons, Nanon, et va faire ton ouvrage, dit le bonhomme. Nanon disparut. Écoute, Eugénie, il faut que tu me donnes ton or. Tu ne le refuseras pas à ton père, ma petite fifille, hein ? Les deux femmes étaient muettes. Je n'ai plus d'or, moi. J'en avais, je n'en ai plus. Je te rendrai 6 000 francs en livres, et tu vas les placer comme je vais te le dire. Il ne faut plus penser aux douzains. Quand je te marierai, ce qui sera bientôt, je te trouverai un futur qui pourra t'offrir le plus beau douzain dont on n'aura jamais parlé dans la province. Écoute donc, fifille. Il se présente une belle occasion. Tu peux mettre tes 6 000 francs dans le gouvernement, et tu en auras tous les 6 mois près de 200 francs d'intérêt, sans impôts, ni réparation, ni grêle, ni gelée, ni marée, ni rien de ce qui tracasse les revenus. Tu répugnes peut-être à te séparer de ton or, hein, fifille? Apporte-le-moi tout de même. Je te ramasserai des pièces d'or, des hollandaises, des portugaises, des roupies du Mongol, des génouvines. Et, avec celles que je te donnerai à tes fêtes, en 3 ans tu auras rétabli la moitié de ton joli petit trésor en or. Que dis-tu, fifille? Lève donc le nez! Allons, va le chercher, le mignon. Tu devrais me baiser sur les yeux pour te dire ainsi des secrets et des mystères de vie et de mort pour les écus. Vraiment, les écus vivent et grouillent comme des hommes. Ça va, ça vient, ça sue, ça produit. Eugénie se leva, mais après avoir fait quelques pas vers la porte, elle se retourna brusquement, regarda son père en face et lui dit « Je n'ai plus mon or. » « Tu n'as plus ton or ? s'écria Grandet en se dressant sur ses jarrets, comme un cheval qui entend tirer le canon à 10 pas de lui. « Non, je ne l'ai plus. »
« Tu te trompes, Eugénie. »
« Non. »
« Par la serpette de mon père !»
Quand le tonnelier jurait ainsi, les planches tremblaient.
« Bon saint bon Dieu, voilà madame qui pâlit !» cria Nanon. « Grandet, ta colère me fera mourir !» dit la pauvre femme. « Ta 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 ta, vous autres, vous ne mourrez jamais dans votre famille !»«
Eugénie, qu'avez-vous fait de vos pièces ? » cria-t-il en fondant sur elle.
« Monsieur, dit la fille au genou de madame Grandet, ma mère souffre beaucoup, voyez, ne la tuez pas. »
Grandet fut épouvanté de la pâleur répandue sur le teint de sa femme, naguère si jaune.
« Nanon, venez m'aider à me coucher, dit la mère d'une voix faible, je meurs. »
Aussitôt Nanon donna le bras à sa maîtresse, autant en fit Eugénie, et ce ne fut pas sans des peines infinies qu'elle purent la monter chez elle, car elle tombait en défaillance de marche en marche. Grandet resta seul. Néanmoins, quelques moments après, il monta 7 ou 8 marches et cria «
Eugénie, quand votre mère sera couchée, vous descendrez. »
« Oui, mon père. » Elle ne tarda pas à venir, après avoir rassuré sa mère.
« Ma fille, lui dit Grandet, vous allez me dire où est votre trésor. »
« Mon père, si vous me faites des présents dont je ne sois pas entièrement maîtresse, reprenez-les, répondit froidement Eugénie en cherchant le Napoléon sur la cheminée et le lui présentant.
Grandet saisit vivement le Napoléon et le coula dans son gousset. Je crois bien que je ne te donnerai plus rien, pas seulement ça, dit-il en faisant claquer l'ongle de son pouce sous sa maîtresse dent. Vous méprisez donc votre père? Vous n'avez donc pas confiance en lui? Vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un père? S'il n'est pas tout pour vous, il n'est rien. Où est votre or?
Mon père, je vous aime et vous respecte, malgré votre colère, mais je vous ferai fort humblement observer que j'ai 22 ans. Vous m'avez assez souvent dit que je suis majeure, pour que je le sache. J'ai fait de mon argent ce qu'il m'a plu d'en faire, et soyez sûr qu'il est bien placé.
Où?
C'est un secret inviolable, dit-elle. N'avez-vous pas vos secrets?
Ne suis-je pas le chef de ma famille? Ne puis-je avoir mes affaires?
C'est aussi mon affaire.
Cette affaire doit être mauvaise si vous ne pouvez pas la dire à votre père, mademoiselle Grandet.
Elle est excellente et je ne puis pas la dire à mon père.
Au moins, quand avez-vous donné votre or?
Eugénie fit un signe de tête négatif.
Vous l'aviez encore le jour de votre fête, hein?
Eugénie, devenue aussi rusée par amour que son père l'était par avarice, réitéra le même signe de tête.
Mais l'on n'a jamais vu pareil entêtement, ni vol pareil,
dit Grandet d'une voix qui alla crescendo et qui fit graduellement retentir la maison.
Comment, ici, dans ma propre maison, chez moi, quelqu'un aura pris ton or, le seul or qu'il y avait, et je ne saurais pas qui? L'or est une chose chère. Les plus honnêtes filles peuvent faire des fautes, donner je ne sais quoi. Cela se voit chez les grands seigneurs et même chez les bourgeois. Mais donner de l'or, car vous l'avez donné à quelqu'un, hein ?
Eugénie fut impassible.
A-t-on vu pareille fille ? Est-ce moi qui suis votre père ? Si vous l'avez placé, vous en avez un reçu.
Étais-je libre, oui ou non, d'en faire ce que bon me semblait ? Était-ce à moi ?
Mais tu es une enfant !
Majeure. Abasourdi par la logique de sa fille, Grandet pâlit, trépigna, jura. Puis, trouvant enfin des paroles, il cria
« Maudit serpent de fille, ah mauvaise graine, tu sais bien que je t'aime et tu en abuses. Elle égorge son père. Par Dieu, tu auras jeté notre fortune aux pieds de ce va-nu-pied qui a des bottes de maroquin. Par la serpette de mon père, je ne peux pas te déshériter, nom d'un tonneau, mais je te maudis. Toi, ton cousin et tes enfants, tu ne verras rien arriver de bon de tout cela, entends-tu? Si c'était à Charles que... Mais non, c'est pas possible. Quoi? Ce méchant Mirliflor m'aurait dévalisé? »
Il regarda sa fille qui restait muette et froide.
Elle ne bougera pas, elle ne sourcillera pas, elle est plus grandée que je ne suis grandée. Tu n'as pas donné ton or pour rien, au moins, voyons, dis.
Eugénie regarda son père en lui jetant un regard ironique qui l'offensa.
Eugénie, vous êtes chez moi, chez votre père. Vous devez, pour y rester, vous soumettre à ses ordres. Les prêtres vous ordonnent de m'obéir.
Eugénie baissa la tête.
Vous m'offensez dans ce que j'ai de plus cher, reprit-il. Je ne veux vous voir que soumise. Allez dans votre chambre. Vous y demeurerez jusqu'à ce que je vous permette d'en sortir. Nanon vous y portera du pain et de l'eau. Vous m'avez entendu ? Marchez.
Eugénie fondit en larmes et se sauva près de sa mère. Après avoir fait un certain nombre de fois le tour de son jardin dans la neige, sans s'apercevoir du froid, Grandet se douta que sa fille devait être chez sa femme. Et, charmé de la prendre en contravention à ses ordres, il grimpa les escaliers avec l'agilité d'un chat et apparut dans la chambre de Madame Grandet au moment où elle caressait les cheveux d'Eugénie, dont le visage était plongé dans le sein maternel.
« Console-toi, ma pauvre enfant. Ton père s'apaisera. »«
Elle n'a plus de père, » dit le tonnelier. « Est-ce bien vous et moi, Madame Grandet, qui avons fait une fille désobéissante comme les celles-là ? Jolie éducation, et religieuse surtout. »« Eh bien, vous n'êtes pas dans votre chambre ? Allons, en prison, mademoiselle. »«
Voulez-vous me priver de ma fille, monsieur ?» dit Madame Grandet en montrant un visage rougi par la fièvre.
Si vous la voulez garder, emportez-la, videz-moi toute de la maison. Tonnerre, où est l'or ? Qui est devenu l'or ?
Eugénie se leva, lança un regard d'orgueil sur son père et rentra dans sa chambre, à laquelle le bonhomme donna un tour de clé.
Nanon ! Cria-t-il, éteins le feu de la salle.
Et il vint s'asseoir sur un fauteuil, au coin de la cheminée de sa femme, en lui disant
« Elle l'a donné sans doute à ce misérable séducteur de Charles, qui n'en voulait qu'un autre argent. »
Madame Grandet trouva, dans le danger qui menaçait sa fille et dans son sentiment pour elle, assez de force pour demeurer en apparence froide, muette et sourde.
« Je ne savais rien de tout ceci, » répondit-elle, en se tournant du côté de la ruelle du lit pour ne pas subir les regards étincelants de son mari. Je souffre tant de votre violence que si j'en crois mes pressentiments, je ne sortirai d'ici que les pieds en avant. Vous auriez dû m'épargner en ce moment, monsieur, moi qui ne vous ai jamais causé de chagrin, du moins je le pense. Votre fille vous aime, je la crois innocente autant que l'enfant qui naît. Ainsi, ne lui faites pas de peine, révoquez votre arrêt. Le froid est bien vif, vous pouvez être cause de quelque grave maladie.
« Je ne la verrai ni ne lui parlerai. Elle restera dans sa chambre, au pain et à l'eau, jusqu'à ce qu'elle ait satisfait son père. Que diable ! Un chef de famille doit savoir où va l'or de sa maison. Elle possédait les seules roupies qui fussent en France, peut-être, puis des Génovines, des Ducats de Hollande.
Monsieur, Eugénie est notre unique enfant, et quand même elle les aurait jetés à l'eau.
« À l'eau ! » cria le bonhomme. « À l'eau ? Vous êtes folle, Madame Grandet. Ce que j'ai dit est dit, vous le savez. Si vous voulez avoir la paix au logis, confessez votre fille. Tirez-lui les vers du nez. Les femmes s'entendent mieux entre elles à ça que nous autres. Quoi qu'elle ait pu faire, je ne la mangerai point. A-t-elle peur de moi ? Quand elle aurait doré son cousin de la tête aux pieds, il est en pleine mer, hein ? Nous ne pouvons pas courir après.
Eh bien, monsieur.
Excitée par la crise nerveuse où elle se trouvait, ou par le malheur de sa fille qui développait sa tendresse et son intelligence, la perspicacité de Madame Grandet lui fit apercevoir un mouvement terrible dans la loupe de son mari, au moment où elle répondait. Elle changea d'idée sans changer de ton.
« Eh bien, monsieur, ai-je plus d'empire sur elle que vous n'en avez ? Elle ne m'a rien dit. Elle tient de vous.
« Tu Dieu, comme vous avez la langue pendue ce matin !»
« Ta, 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 vous me narguez, je crois. Vous vous entendez peut-être avec elle. »
Il regarda sa femme fixement.
« En vérité, monsieur Grandet, si vous voulez me tuer, vous n'avez qu'à continuer ainsi. Je vous le dis, monsieur, et dût-il m'en coûter la vie, je vous le répéterai encore. Vous avez tort envers votre fille. Elle est plus raisonnable que vous ne l'êtes. Cet argent lui appartenait. Elle n'a pu qu'en faire un bel usage. » Et Dieu seul a le droit de connaître nos bonnes œuvres. Monsieur, je vous en supplie, rendez vos bonnes grâces à Eugénie. Vous amoindrirez ainsi l'effet du coup que m'a porté votre colère, et vous me sauverez peut-être la vie. Ma fille, monsieur, rendez-moi ma fille. »
Je décampe, dit-il. Ma maison n'est pas tenable. La mère et la fille résonnent et parlent comme si... Vous m'avez donné de cruelles étrennes, Eugénie, cria-t-il. Oui, oui, pleurez. Ce que vous faites vous causera des remords, entendez-vous? À quoi donc vous sert de manger le bon Dieu 6 fois tous les 3 mois, si vous donnez l'or de votre père en cachette à un fainéant qui vous dévorera votre cœur quand vous n'aurez plus que ça à lui prêter? Vous verrez ce que vaut votre Charles avec ses bottes de maroquin et son air de n'y pas toucher. Il n'a ni cœur ni âme, puisqu'il ose emporter le trésor d'une pauvre fille sans l'agrément des parents. »
Quand la porte de la rue fut fermée, Eugénie sortit de sa chambre et vint près de sa mère. « Vous avez eu bien du courage pour votre fille, » lui dit-elle. « Vois-tu, mon enfant, où nous mènent les choses illicites? Tu m'as fait faire un mensonge. »
« Oh, je demanderai à Dieu de m'en punir seule. » « C'est-il vrai ? » dit Nanon effarée en arrivant. « Que voilà mademoiselle au pain et à l'eau pour le reste des jours ?»«
Qu'est-ce que cela fait, Nanon ? » dit tranquillement Eugénie.
« Ah, plus souvent que je mangerai de la fripe quand la fille de la maison mange du pain sec. Non, non. »
« Pas un mot de tout ça, Nanon, » dit Eugénie.
« J'aurai la goule morte, mais vous verrez. »
Grandet dîna seul pour la première fois depuis 24 ans.
« Vous voilà donc veuf, monsieur, » lui dit Nanon. « C'est bien désagréable d'être veuf avec 2 femmes dans sa maison. »
« Je ne te parle pas à toi. Tiens ta margoulette ou je te chasse. Qu'est-ce que t'as dans ta casserole que j'entends bouilloter sur le fourneau ?»«
C'est des graisses que je fonds. » »«
Il viendra du monde ce soir. Allume le feu. » Les Cruchot, Madame des Grassins et son fils, arrivèrent à 8 heures et s'étonnèrent de ne voir ni Madame Grandet ni sa fille. « Ma femme est un peu indisposée. Eugénie est auprès d'elle. » répondit le vieux vigneron dont la figure ne trahit aucune émotion. Au bout d'une heure employée en conversation insignifiante, Madame des Grassins, qui était montée faire sa visite à Madame Grandet, descendit et chacun lui demanda « Comment va Madame Grandet ?»«
Mais pas bien du tout, du tout, » dit-elle. « L'état de sa santé me paraît vraiment inquiétant. À son âge, il faut prendre les plus grandes précautions, papa Grandet. »
« Nous verrons cela, » répondit le vigneron d'un air distrait. Chacun lui souhaita le bonsoir. Quand les Cruchot furent dans la rue, Madame des Grassins leur dit « Il y a quelque chose de nouveau chez les Grandet. La mère est très mal, sans seulement qu'elle s'en doute. La fille a les yeux rouges comme quelqu'un qui a pleuré longtemps. Voudrait-il la marier contre son gré ?»
Lorsque le vigneron fut couché, Nanon vint en chaussons, à pas muets chez Eugénie, et lui découvrit un pâté fait à la casserole. « Tenez, mademoiselle, » dit la bonne fille, « Cornoyer m'a donné un lièvre. Vous mangez si peu que ce pâté vous durera bien 8 jours, et par la gelée, il ne risquera point de se gâter. Au moins, vous ne demeurerez pas au pain sec. C'est que ça n'est point sain du tout. »
« Pauvre Nanon, » dit Eugénie en lui serrant la main.
« Je l'ai fait ben bon, ben délicat, et il ne s'en est point aperçu. J'ai pris le lard, le laurier, tout sur mes 6 francs. J'en suis ben la maîtresse. »
Puis la servante se sauva, croyant entendre Grandet. Pendant 2 mois, le vigneron vint voir constamment sa femme à des heures différentes dans la journée, sans prononcer le nom de sa fille, sans la voir, ni faire à elle la moindre allusion. Madame Grandet ne quitta point sa chambre, et de jour en jour son état empira. Rien ne fit plier le vieux tonnelier. Il restait inébranlable, âpre et froid comme une pile de granit. Il continua d'aller et venir selon ses habitudes, mais il ne bégaya plus, causa moins, et se montra dans les affaires plus dur qu'il ne l'avait jamais été. Souvent, il lui échappait quelque erreur dans ses chiffres. « Il s'est passé quelque chose chez les Grandet, » disaient les Cruchotins et les Grassinistes. « Qu'est-il donc arrivé dans la maison Grandet ? fut une question convenue que l'on s'adressait généralement dans toutes les soirées à Saumur. Eugénie allait aux offices sous la conduite de Nanon. Au sortir de l'église, si Madame des Grassins lui adressait quelques paroles, elle y répondait d'une manière évasive et sans satisfaire sa curiosité. Néanmoins, il fut impossible au bout de 2 mois de cacher, soit aux 3 Cruchot, soit à Madame des Grassins, le secret de la réclusion d'Eugénie. Il y eut un moment où les prétextes manquèrent pour justifier sa perpétuelle absence. Puis, sans qu'il fût possible de savoir par qui le secret avait été trahi, toute la ville apprit que depuis le premier jour de l'an, Mademoiselle Grandet était, par l'ordre de son père, enfermée dans sa chambre, au pain et à l'eau, sans feu. Que Nanon lui faisait des friandises, les lui apportait pendant la nuit. Et l'on savait même que la jeune personne ne pouvait voir et soigner sa mère que pendant le temps où son père était absent du logis. La conduite de Grandet fut alors jugée très sévèrement. La ville entière le mit, pour ainsi dire, hors la loi, se souvint de ses trahisons, de ses duretés, et l'excommunia. Quand il passait, chacun se le montrait en chuchotant. Lorsque sa fille descendait la rue Tortueuse pour aller à la messe ou à vêpres, accompagnée de Nanon, tous les habitants se mettaient aux fenêtres pour examiner avec curiosité la contenance de la riche héritière et son visage, où se peignaient une mélancolie et une douceur angélique. Sa réclusion, la disgrâce de son père, n'était rien pour elle. Ne voyait-elle pas la map-monde, le petit banc, le jardin, le pan de mur, et ne reprenait-elle pas sur ses lèvres le miel qui avait laissé les baisers de l'amour? Elle ignora pendant quelque temps les conversations dont elle était l'objet en ville, tout aussi bien que les ignorait son père. Religieuse et pure devant Dieu, sa conscience et l'amour l'aidaient à patiemment supporter la colère et la vengeance paternelle. Mais une douleur profonde faisait taire toutes les autres douleurs. Chaque jour, sa mère, douce et tendre créature, qui s'embellissait de l'éclat que jetait son âme en approchant de la tombe, sa mère dépérissait de jour en jour. Souvent, Eugénie se reprochait d'avoir été la cause innocente de la cruelle, de la lente maladie qui la dévorait. Ses remords, quoique calmés par sa mère, l'attachait encore plus étroitement à son amour. Tous les matins, aussitôt que son père était sorti, elle venait au chevet du lit de sa mère, et là, Nanon lui apportait son déjeuner. Mais la pauvre Eugénie, triste et souffrante des souffrances de sa mère, en montrait le visage à Nanon par un geste muet, pleurait et n'osait parler de son cousin. Madame Grandet, la première, était forcée de lui dire: où est-il? Pourquoi n'écrit-il pas? La mère et la fille ignoraient complètement les distances. Pensons à lui, ma mère, répondait Eugénie, et n'en parlons pas. Vous souffrez, vous avant tout. Tout, c'était lui. Mes enfants, disait Madame Grandet, je ne regrette point la vie. Dieu m'a protégée en me faisant envisager avec joie le terme de mes misères. Les paroles de cette femme étaient constamment saintes et chrétiennes. Quand, au moment de déjeuner près d'elle, son mari venait se promener dans sa chambre, elle lui dit, pendant les premiers mois de l'année, les mêmes discours, répétés avec une douceur angélique, mais avec la fermeté d'une femme à qui une mort prochaine donnait le courage qui lui avait manqué pendant sa vie. « Monsieur, je vous remercie de l'intérêt que vous prenez à ma santé, lui répondait-elle, quand il lui avait fait la plus banale des demandes. Mais si vous voulez rendre mes derniers moments moins amers et alléger mes douleurs, rendez vos bonnes grâces à notre fille, montrez-vous chrétien, époux et père. » En entendant ces mots, Grandet et agissait comme un homme qui, voyant venir une averse, se met tranquillement à l'abri sous une porte cochère. Il écoutait silencieusement sa femme et ne répondait rien. Quand les plus touchantes, les plus tendres, les plus religieuses supplications lui avaient été adressées, il disait: « Tu es un peu palote aujourd'hui, ma pauvre femme. » l'oubli le plus complet de sa fille semblait être gravé sur son front de grès, sur ses lèvres serrées. Il n'était même pas ému par les larmes que ses vagues réponses, dont les termes étaient à peine variés, faisaient couler le long du blanc visage de sa femme. « Que Dieu vous pardonne, monsieur, disait-elle, comme je vous pardonne moi-même. Vous aurez un jour besoin d'indulgence. » Depuis la maladie de sa femme, il n'avait plus osé se servir de son terrible « ta-ta-ta-ta-ta ». Mais aussi son despotisme n'était-il pas désarmé par cet ange de douceur, dont la laideur disparaissait de jour en jour, chassée par l'expression des qualités morales qui venaient fleurir sur sa face. Elle était toute âme. Le génie de la prière semblait purifier, amoindrir les traits les plus grossiers de sa figure, et la faisait resplendir. Qui n'a pas observé le phénomène de cette transfiguration sur de saints visages, où les habitudes de l'âme finissent par triompher des traits les plus rudement contournés, en leur imprimant l'animation particulière due à la noblesse et à la pureté des pensées élevées. Le spectacle de cette transformation accomplie par les souffrances qui consumaient les lambeaux de l'être humain dans cette femme agissait, quoique faiblement, sur le vieux tonnelier, dont le caractère resta de bronze. Si sa parole ne fut plus dédaigneuse, un imperturbable silence, qui sauvait sa supériorité de père de famille, domina sa conduite. Sa fidèle Nanon paraissait-elle au marché? Soudain, quelques lazis, quelques plaintes sur son maître lui sifflaient aux oreilles. Mais, quoique l'opinion publique condamna hautement le père Grandet, la servante le défendait par orgueil pour la maison. « Eh bien, disait-elle aux détracteurs du bonhomme, est-ce que nous ne devenons pas tous plus durs en vieillissant? Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il se racornisse un peu, cet homme? Taisez donc vos menteries. Mademoiselle vit comme une reine. Elle est seule, eh bien, c'est son goût. D'ailleurs, mes maîtres ont des raisons majeures.